Faire après.
Non, ça, c'est pas là, ça y est, c'est fait.
D'accord.
C'est l'enregistrement.
Il faudra lui dire.
Donc, bien sûr qu'on va faire de la théologie ensemble, mais il ne faut pas que ce terme-là vous inquiète ou vous bloque pour poser vos questions. En fait, il va y avoir un vocabulaire particulier parce que vous avez passé l'âge, et moi aussi, de faire de la catéchèse. Donc, voilà, vous êtes adulte, j'imagine, en plus dans votre foi. Donc, le vocabulaire qui doit s'adapter à ce que vous êtes là maintenant, c'est un vocabulaire plus théologique que catéchétique. Mais bon, je vais faire en sorte d'expliquer et de revenir sur les explications si besoin. Donc, je vous disais, les questions plutôt à la fin. Et puis, si vous avez téléchargé le plan du cours, on peut regarder ça ensemble. On va donc passer 9 séances ensemble. Et donc, j'ai construit ces 9 séances en essayant qu'il y ait une cohérence depuis le moment où Dieu se manifeste. Et ce manifestalogue, c'est le fil conducteur de ces 9 cours. Donc, avec ce premier cours que d'aujourd'hui sur non pas la manière dont Dieu se manifeste, pas simplement, mais bien réaliser que Dieu veut se manifester. Vraiment réaliser qu'il y a en Dieu de la volonté. Ensuite, on aura un cours sur le témoignage dans les Écritures, puisqu'il faut bien que l'histoire de la révélation nous parvienne jusqu'à aujourd'hui, donc l'importance des Écritures. Ensuite, la manière dont Dieu se manifeste dans sa parole, et que devient la parole de Dieu quand elle est dite par des hommes, par exemple. Ça, ce sera notre cours 3. Ensuite, bien entendu, Dieu continue de se révéler, mais cette fois-ci non plus par sa parole et par l'intermédiaire de messagers, mais par des hommes, et par un homme en particulier, enfin des hommes par les prophètes, et ensuite par Jésus-Christ, donc son Fils, le Verbe incarné. On abordera l'itinéraire de Jésus, voilà, le mystère pascal, en 2 séances, j'ai prévu 2 volets pour ça. Et puis la Trinité, bien entendu, l'originalité de notre foi chrétienne et de notre religion, c'est de confesser un Dieu en 3 personnes. Ce qui n'est pas toujours facile à comprendre, mais bon, on abordera ça. Et puis bien entendu, l'Église est l'originalité de la foi chrétienne, puisque la foi chrétienne a une dimension d'originalité, non pas dans le sens où elle est originale, mais dans le sens où elle se démarque d'autres manières de croire. Et puis on terminera sur un cours pour essayer de voir avec vous ce qu'on a fait durant ces 9 séances, ces 8 séances, pour essayer de ressaisir un petit peu ressaisir les choses, voilà, voir comment, bah, effectivement, pendant 8 séances, on essaiera de comprendre comment on a fait de la théologie et comment vous avez fait de la théologie durant ces séances-là. Donc ça, c'est une chose. Normalement, vous avez, Hélène vous envoie le plan du cours. Et puis, pour faciliter un petit peu les choses, j'espère que ce sera le cas. Voilà. Vous avez, je vous le mets sur, puis j'avancerai au fur et à mesure pour que vous ne soyez pas perdus. Voilà. Voilà. Bon. Puis si j'oublie le curseur, vous me le rappelez parce que je peux être assez étourdie. Alors, est-ce que c'est bon pour vous ?
Oui.
Voilà. Et puis alors, pour les questions, bien entendu. Il faut que je me déplace parce que j'ai un truc dans l'œil. Il n'y a pas de questions bêtes. N'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a que des questions qui attendent une réponse. Donc, si vous avez une question, eh bien, vous la notez et puis vous la posez. Et souvent, vos questions, c'est l'occasion aussi d'échange. Parce que vos questions donnent sûrement, les questions de l'une ou de l'autre donnent à penser à l'un ou à l'autre. Donc elles sont utiles. Donc ne vous restreignez pas. Je ne sais pas si je vais arriver, je vais prendre le micro quand même. Parce que je ne vais pas y arriver ici. Voilà. Alors, on va commencer le cours. Oula, je ne suis pas très... Voilà, ah, ça a débranché. Ça a débranché. Alors attendez, je vais reconnecter. Je
vais reconnecter. Je pense que je vais mettre le bureau un petit peu sur le côté parce que... Voilà, vous l'avez ?
Oui.
Voilà. Voilà. Alors. Ouais, j'ai poussé le bureau parce qu'en fait, quand je me mets au milieu, j'ai la lumière du rétroprojecteur. Non, c'est parfait. C'est parfait.
Comme ça, on va y arriver.
C'est parfait. Alors, vous avez aussi les textes du cours à chaque fois. Hein. Avec le plan, vous avez le texte. Et la fois prochaine, je vous parlerai de la bibliographie. Mais là, comme il y a beaucoup de choses à dire en premier, donc voilà. Alors, en guise de préambule, voilà, donc dans ce parcours, nous allons aborder la manifestation de Dieu, et comme je vous l'ai dit plus particulièrement, la volonté de Dieu de se manifester. Donc la révélation divine est un événement majeur, fondamental dans l'histoire du christianisme, et puis fondamental pour la théologie. Il n'y aurait pas de théologie sans l'écriture qui nous renvoie à cet événement premier de Dieu qui veut se manifester. Donc la révélation de Dieu et sa manifestation, on va voir qu'elle n'est pas uniforme. Et donc on va essayer d'identifier les manières dont Dieu se révèle à travers l'histoire de la révélation. Et donc on pourrait dire que Dieu commence à se manifester à des personnes qu'il a choisies. Donc le choix d'hommes particuliers pris au milieu du groupe, c'est déjà un thème théologique qui est le thème de l'élection. Et donc le thème de l'élection, il est déjà présent dans la révélation de Dieu. Dieu ne peut pas se révéler en direct. Il faut qu'il y ait des médiateurs. Donc déjà, quand vous avez ces termes-là, théologie, élection, médiation, c'est des termes que l'on va retrouver très régulièrement. Donc Dieu se manifeste et c'est donc un acte volontaire de sa part, c'est son vouloir et c'est son désir. Alors ça peut paraître étonnant de parler du désir de Dieu, et pourtant, il y a en Dieu le désir de se manifester et le désir de se faire connaître. Alors bien sûr, il y a un but à cela. Et l'objectif de cette révélation, c'est l'homme. C'est l'homme lui-même. Et donc la révélation pour les hommes et les femmes, hein, quand je dis hommes, c'est l'humanité. Hein. Pour l'humanité, c'est vraiment un acte qui est un acte, j'allais dire un don, mais en fait c'est bien plus qu'un don, c'est une grâce qu'il fait à l'homme en particulier de se révéler. Et dès lors, on comprend que Dieu, une fois qu'il s'est révélé, qu'il s'est fait connaître, il est pour tous et pour toujours. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête, c'est un événement qui va durer dans le temps. Donc l'origine de la révélation, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas d'autre origine que Dieu lui-même. Et c'est pourquoi tous les énoncés théologiques que vous lirez, et j'espère que vous en lirez, sont fondés sur cet acte premier de Dieu de vouloir se manifester et se révéler. Et donc je vous disais qu'il se manifestait de différentes manières. Alors oui, de différentes manières. C'est d'abord sa parole, il s'adresse en parole à des hommes. Puis on a des manifestations cosmologiques. On a l'habitude d'en lire dans l'Ancien Testament, et on en retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Mais ils sont plus rares. Des manifestations cosmologiques, c'est la nuée, le tremblement de terre, le buisson ardent par exemple, ça aussi c'en est une. Les médiations ne sont jamais les paroles de Dieu ne sont jamais dites en direct. Il y a des médiations. Et les médiateurs, les premiers médiateurs, ce sont les anges, l'ange du Seigneur. Mais il n'y a pas que les paroles. Il y a les visions. Donc on a l'audition et on a les visions. Mais par ces paroles, Dieu va entrer en conversation avec les hommes. Mais pas avec n'importe lesquels, avec ceux qu'il a choisis. Et de ces hommes, il attend une réponse. Et cette réponse, elle est unique, parce que Dieu est unique. Ça ne peut pas être une réponse au hasard. Parce que lorsque Dieu se révèle à un homme, il bouleverse sa vie totalement. C'était le cas, on va le voir, avec Abraham. Donc il s'adresse à lui, Abraham par exemple, il s'adresse à lui personnellement. C'est pour lui, c'est un message pour lui, c'est une adresse pour lui, mais pas que pour lui personnellement, c'est aussi pour son groupe, pour sa tribu. Et ensuite, nous qui connaissons un peu l'histoire rétrospectivement, on voit bien que c'est aussi pour l'histoire d'Israël. Un homme, un groupe, une histoire plus large qui marquera l'histoire de tout un peuple. Donc le désir de Dieu de se faire connaître, on pourrait dire qu'il est poussé par un double motif. Pour le salut de tous et par amour pour tous. On ne néglige jamais la dimension d'amour. Dieu ne se manifeste pas par nécessité. Il n'y a rien de nécessaire en Dieu. En revanche, il se manifeste parce qu'il aime. Donc l'accomplissement de la révélation, elle arrive à sa plénitude, à son accomplissement, non pas totalement dans l'Ancien Testament, mais elle arrive à son accomplissement total avec l'incarnation du Fils. Ce qui veut dire que de la révélation de Dieu de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il n'y a pas de rupture. Il y a une continuité de la révélation et de sa manifestation. C'est important pour nous de bien comprendre ça parce que ça évite de penser qu'il y aurait un livre qui serait caduc et un autre qui serait nouveau, qui serait venu remplacer l'ancien. Non, il y a vraiment une continuité de la révélation de l'Ancien au Nouveau Testament. Ce qui a été promis dans l'Ancien Testament se trouve accompli en la personne de Jésus-Christ, mort et ressuscité, dans le Nouveau Testament. Et les Écritures témoignent que Dieu est unique et que tous ont le même Dieu. Alors nous, aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais au temps d'Abraham, ça ne l'était pas. La tribu d'Abraham croyait, c'était une tribu païenne, il croyait en plusieurs dieux. Donc le fait de professer et d'avoir la foi, une foi qui s'origine en Abraham, eh bien c'est de dire, pour la première fois dans l'histoire d'un peuple, eh bien ce peuple-là croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Dieu est unique et qu'il est pour tous. Donc c'est une nouveauté radicale. Ça va ? Je ne parle pas trop vite ? Vous me dites. Hein. Donc ça, c'était notre préambule. Alors du coup, on est encore dans l'introduction. Donc, je reprends un petit peu les choses dans l'introduction. Donc les différentes manières de se manifester, les différentes manifestations de Dieu doivent être considérées comme des actes. Voilà. Des actes qui contiennent en quelque sorte la raison même de la révélation. Ce n'est pas un acte qui est posé au hasard. Il y a une raison. Et la raison de cet acte-là, cet acte de révélation, c'est l'homme. Dieu a créé l'homme à son image, nous dit l'Écriture. Il s'est manifesté à lui en parole et par son Fils, par l'incarnation. Et on pourrait dire, c'est sa volonté, c'est même sa liberté. Donc vous voyez bien, si on avait l'idée qu'il y a un peu de nécessité en Dieu, il n'y a ni nécessité ni hasard, pour reprendre le titre d'un livre qui date un peu là maintenant. Voilà. Et il y a un texte de la Constitution dogmatique de Dei Verbum, on en lira quelques extraits, parce que la Constitution Dei Verbum sur la révélation divine, c'est un texte qui n'est pas très long, et c'est un magnifique texte, vraiment que je vous engage à lire. C'est le texte 1, voilà ce que nous dit ce texte. Il a plu à Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Dans cette révélation, le Dieu invisible s'adresse aux hommes en son immense amour ainsi qu'à des amis. Il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. Pareille économie de la révélation comprend des actions et des paroles intimement liées entre elles, de sorte que les œuvres accomplies par Dieu dans l'histoire du salut attestent et corroborent et la doctrine et le sens indiqué par les paroles, tandis que les paroles proclament les œuvres, et éclaire le mystère qu'elles contiennent. La profonde vérité de cette révélation manifeste sur Dieu et sur le salut de l'homme, resplendit pour nous dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de la révélation. Donc vous voyez, il y a dans ce petit texte-là, vraiment, si vous gardez que ce texte-là, vous entrez parfaitement dans une dynamique théologique. On a à la fois tout le vocabulaire, tout le mouvement théologique qui nous dit d'abord se manifester, se faire connaître, c'est la volonté de Dieu et c'est son plaisir. Découvrir qu'il y a du plaisir en Dieu et du désir, ça c'est peut-être nouveau. Il a plu à Dieu. Ensuite, il ne révèle pas autre chose que lui-même. Dieu ne nous dit pas, enfin en tout cas la constitution dogmatique n'interprète pas la révélation de Dieu comme étant je me révélerai plus tard ou je vous dirai plus tard qui je suis. Non, il ne révèle pas autre chose que lui-même et il se révèle en personne. Ensuite, on a un autre terme théologique. Il se révèle par des actes et des paroles qui constituent, nous dit la constitution, une économie de la révélation. Parce que si vous relisez bien le texte, eh bien on voit bien qu'on peut identifier les moyens que Dieu se donne pour se faire connaître. Et donc l'économie, on peut en parler aussi à partir de l'incarnation du Fils. L'incarnation fait partie de l'économie de la révélation. Dieu se fait connaître dans l'Ancien Testament par sa parole et par des actes de libération du peuple, par exemple. Quand le peuple est asservi, il le libère. Et ensuite, il se fait connaître en personne par le Fils. Et il y a quelque chose d'intéressant parce qu'il y a une visée là-dedans. En vue de la participation des hommes de la nature divine. C'est-à-dire, nous sommes invités à participer à la nature divine du Christ. Nous devenons des filles et des fils adoptifs, nous dit la Constitution. Donc, en fait, on a trois termes qu'on relève et qui vont attirer notre attention là pour ce début de cours. Et on va identifier ces mots-là. C'est révélation, donc on va entrer dans la définition de ces termes. Révélation, manifestation et économie. Ces trois termes-là, ils indiquent le mouvement, ils indiquent l'axe. Quelle est la dynamique de la révélation ? La dynamique, c'est d'abord une révélation qui va se manifester de manière différente. Et toutes ces manières-là vont former en théologie un principe que l'on appelle le principe économique. Donc notre premier point, c'est la terminologie de la révélation. Le premier, c'est le terme de révélation. Alors on va voir la définition du terme, en tout cas la manière dont on l'aborde en théologie, mais d'abord... On va plutôt comment on comprend la révélation du point de vue dans le sens un peu commun, en fait. Comment on peut considérer ça? Donc, révélation, ça vient du latin. Révélatio. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de marquer, mais bon, vous pouvez. Hein, et qui vient du verbe révélare. Donc ça, c'est pour le côté un peu érudit, mais bon, on s'en fiche un petit peu d'érudition. Par contre, il y a un terme que vous connaissez déjà pour révélation, c'est le terme grec apocalypsis. Vous le connaissez parce que ça nous renvoie à l'apocalypse de Saint Jean. Et apocalypse veut dire révélation. Alors, entre le grec et le latin, eh bien, l'Église catholique, enfin le christianisme au départ, a choisi un des deux. Et il a choisi le latin plutôt que le grec. Donc il a laissé le terme apocalypsis et il a gardé le terme de révélation, donc révélation. Et on doit ce choix à un homme, un père de l'Église du 2e, 3e siècle qui s'appelle Tertullien. Vous avez peut-être entendu parler de Tertullien. Voilà. Et si je vous dis cela, c'est parce que c'est important de voir comment les termes que nous employons aujourd'hui dans notre religion chrétienne ont aussi une histoire et qu'ils ont fait l'objet d'un choix au départ. Et si c'est plutôt le latin qui a été choisi, c'est parce qu'au 2e, 3e siècle, la culture grecque était encore très présente. Et donc, en choisissant le latin, on crée une rupture avec la pensée grecque, la pensée païenne. Il fallait inscrire le vocabulaire dans une compréhension chrétienne qui soit le plus éloignée de la pensée grecque. Donc Tertullien choisit, à juste titre, ce terme de révélation. Mais si nous prenons le terme du point de vue... de son utilisation commune, par exemple, c'est-à-dire dans notre langage, le quotidien. On pourrait dire que le terme de révélation va indiquer que quelque chose ou quelqu'un était déjà présent, mais s'est révélé à un moment particulier. Vous savez, ça nous arrive des fois de découvrir quelque chose et de dire « Oh, mais ça a été pour moi une révélation ». Ça ne veut pas dire que la chose n'existait pas, mais c'est parce qu'elle n'était pas encore venue à notre intelligence, à notre compréhension. Et au moment, c'est comme Eureka, si vous voulez, au moment où on comprend, on dit, bah, j'ai compris, mais d'un coup, c'était une révélation. Donc, et ça nous intéresse pour le terme de révélation au niveau chrétien, parce qu'écoutez ça, c'est vraiment quelque chose ou quelqu'un qui était déjà là, arrive à se révéler ou se révèle à un moment donné, soit à notre intelligence, soit à notre conscience, mais se révèle à un moment particulier. Donc vous voyez où je veux en venir. C'est que s'agissant de la révélation de Dieu, il n'y a pas eu un moment où Dieu n'existait pas. Dieu existait, mais parce qu'il lui a plu à un moment donné, qui fait partie de sa volonté de se révéler, à ce moment-là, il se révèle, mais il existait déjà. Donc ce passage qui se fait du moment où il est inconnu, pour reprendre le terme de Paul, ou Dieu inconnu, où il est inconnu au moment où il se révèle, on pourrait se dire, mais c'était un moment où Dieu était caché. En fait, non, Dieu ne se cache pas, il n'y a pas un moment où Dieu est caché. Mais on pourrait dire... que Dieu était voilé et qu'à un moment donné, il décide de se dévoiler. Donc on va passer du voilement, oui c'est ça, du voilement au dévoilement. Donc il faut toujours, en théologie, il y a du mouvement, il y a toujours du mouvement. Il y a du mouvement, il y a de l'articulation, il y a parfois du paradoxe, mais de toute façon, c'est toujours l'unité qu'il faut garder. On ne sépare pas le voilement du dévoilement. Est-ce que ça va ? Donc le mystère va s'opérer du mystère voilé au mystère révélé. Vous voyez bien que dans les deux cas, je garde le terme de mystère. Alors mystère, ça ne veut pas dire que Dieu veut être mystérieux. Dieu n'est pas mystérieux. Par contre, ce qui est un mystère pour nous, c'est de nous dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Dieu a voulu se révéler. C'est la volonté de Dieu qui est un mystère pour nous. Il n'y a rien de mystérieux, mais parce que nous ne pouvons pas pénétrer la volonté et le désir de Dieu. Alors, il y a un théologien qui s'appelle Jean-Yves Lacoste qui dit que Dieu est connu par Dieu. Et oui, Dieu est connu par Dieu parce qu'on ne peut pas connaître Dieu autrement que par lui-même. Quelqu'un nous raconterait qu'il a rencontré Dieu, il nous raconterait son expérience, mais son expérience demeurerait de toute façon son expérience, ne nous permettrait pas à nous de connaître Dieu. Donc Dieu n'est connu que par Dieu lui-même. Et ça, c'est aussi un mystère. C'est un mystère parce que c'est de l'ordre de la décision. Donc il y a de la décision aussi en Dieu. Et cette décision est aussi un mystère pour les hommes. Le psaume 8, le verset 4 que vous connaissez sûrement. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, que tu en prennes souci ?» Voilà quelque chose, une interrogation. Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu décides, Seigneur, de te révéler à nous ? Il s'agit donc d'une initiative. Et cette initiative, elle revient à Dieu uniquement. Ce ne serait pas à cause de l'agir de l'homme. L'homme n'y est pour rien dans cette initiative. Il est passif dans cette initiative. Donc voilà pourquoi nous parlons volontiers du mystère de sa révélation. Et pourquoi on doit tenir qu'il n'y a rien de mystérieux parce que Dieu ne se cache pas. Alors quand Dieu se révèle vraiment et qu'il se manifeste par des actes et des paroles, eh bien sa révélation, on va dire qu'elle a une dimension objective parce qu'il s'est vraiment révélé. Il s'est vraiment révélé parce qu'on peut ouvrir l'Ancien Testament et puis voir dans les Écritures le témoignage de cette révélation. Donc le témoignage de cette révélation nous permet de dire que la révélation de Dieu a une dimension objective. Donc ça aussi, c'est des termes qu'on emploiera de temps en temps. Donc se faire connaître pour Dieu, c'est se manifester. Alors on peut voir, oui, notez vos questions.
Je sais bien que c'est frustrant, on ne peut pas les poser tout de suite.
On va voir le terme de manifestation, par exemple. Et on avance comme ça, vous allez voir, on va comprendre. Par exemple, le terme de manifestation, c'est notre point suivant. Si je dis manifester, c'est faire connaître et faire voir. Donc, il y a de la vision, et quand il y a de la vision dans l'Ancien Testament, on va parler de théophanie, des manifestations de Dieu dans la nuée, dans un tremblement de terre, dans un orage, enfin plusieurs signes de manifestation cosmique. Et ensuite, il y a se manifester. C'est un petit peu différent. Parce que se manifester, c'est se faire connaître. C'est se montrer. Dès lors, on n'est plus dans la vision, mais on est dans l'apparition, dans l'apparaître. Et donc, on est plutôt dans apparaître de soi-même. Ça veut dire décider de se montrer. Vous voyez la différence entre décider de se montrer et montrer. Donc ces termes, manifester ou se manifester, ou même apparaître, eh bien, ne figurent pas dans les Écritures. Vous ne trouverez pas ce vocabulaire dans le vocabulaire biblique. Il n'y est pas. En revanche, ce qu'on va trouver dans l'Écriture et dans le vocabulaire biblique, ce sera l'expérience d'hommes, de certains hommes, à qui il a été donné de voir Dieu ou de voir sa manifestation. Donc, révélation, manifestation, vous ne trouverez pas ça dans le vocabulaire biblique, mais au contraire, vous trouverez le témoignage de l'expérience de la manière dont Dieu s'est fait connaître et s'est montré. Et la Bible, vous connaissez quelques moments de théophanie que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Tout à l'heure, je vous parlais d'Abraham. Bien précisément, Abraham est le premier qui a fait l'expérience par l'audition ou par la vision de Dieu se manifestant à lui. C'est le texte 2, donc par l'audition. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père et va vers le pays que je te ferai voir. Voilà, Dieu s'adresse à lui. Ensuite, par la vision, on est sur Genèse 18, 1, 2, le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mambré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut trois hommes debout près de lui. Alors on peut remarquer déjà qu'Abraham ne voit pas le Seigneur face à face. Il voit trois hommes assis près de lui. Et donc là, on doit avoir déjà en tête ce mot-là, médiation. Voilà, il y a toujours des médiateurs. C'est jamais Dieu en face à face. Là, ce sont trois hommes. Donc, il y a du dévoilement, mais il y a aussi du voilement par les trois hommes. L'autre exemple est celui de Moïse. Dans le livre de l'Exode, donc Exode 3, 1, 2, donc normalement vous avez le texte, Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda, le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Là aussi, pas de prise directe avec Dieu. Là, c'est la médiation du buisson, la médiation un peu de cosmologique. Donc, soit la médiation est toujours indirecte, soit elle est médiatisée par les trois hommes, soit elle est médiatisée par le feu. Donc, ces théophanies, elles vont légitimer une fonction. C'est celle de la mission, parce que Dieu s'adresse à ses hommes par le moyen qu'il a choisi, mais ce n'est pas uniquement pour leur parler ou pour se faire connaître. C'est aussi pour leur confier une mission, même si ce n'est pas le terme qui est employé là. Alors pour Abraham, la mission, ce sera la justification de la foi, puisqu'on dit qu'Abraham, c'est le père dans la foi, donc lui, ce sera sa mission. Donc, justifier la foi en Dieu et en sa promesse. Et pour Moïse, il s'agira de l'envoyer en mission de conduire le peuple. C'est Moïse qui conduira le peuple à travers le désert jusqu'à l'entrée de la terre promise. Sauf que pour Abraham se rajoute quelque chose de déterminant. Déterminant parce que là on est dans l'Exode, et bien Exode 3,14, ce verset est déterminant parce que Dieu va délivrer son identité. Il va dire « je suis qui je suis » ou « je suis qui je serai » selon les traductions. Donc Dieu dit qui il est. Vous voyez, en même temps il y a du voilé. Il dit qui il est, mais il ne donne pas un nom. Il dit « je suis Dieu ». Il dit « Je suis qui je suis ». C'est-à-dire qu'il est, dans son essence même, l'être à partir de qui tout peut avoir une origine. L'être à partir de qui tout s'origine. Donc si on compare Abraham et Moïse, eh bien, on va dire que dans l'Ancien Testament, eh bien, ce sont les deux figures de la foi. Abraham, eh bien, parce que lui, à lui, Dieu a demandé de partir, de quitter son pays, sa famille. Et donc pour Abraham, c'est une transformation spirituelle, mais aussi existentielle. N'oublions pas, dans le verset que je vous ai lu juste avant, je parlais d'Abraham, et qu'ensuite Abraham devient Abraham. Donc, connaissant Dieu, Abraham change d'identité. Donc un changement spirituel, du milieu païen, on y croit en un Dieu unique, et existentiel, puisqu'il change d'identité. Et pour Moïse, il ne s'agit pas d'un départ, mais il s'agit d'un retour. Et pour Moïse, c'est un changement d'existence, parce qu'il retourne chercher le peuple, et il devra conduire le peuple et l'amener jusqu'à la terre promise que lui-même ne verra pas, puisqu'il mourra juste avant la terre promise, et c'est Josué qui fera, qui amènera le peuple en passant par Jéricho et puis qui l'installera en terre promise. Donc on voit bien que la volonté de Dieu, c'est aussi de se faire connaître à certains qui ont été élus, pris au milieu d'autres personnes. Donc Dieu se révèle et donc il nous montre aussi son économie. Ça aussi, voilà le terme d'économie. Par la vision, par l'audition, à Abraham, à Moïse. Et donc la révélation, c'est aussi une communication. Et on va lire le texte 3, toujours dans la constitution dogmatique. Par la révélation divine, Dieu a voulu se manifester et se communiquer lui-même, ainsi que manifester et communiquer les décrets éternels de sa volonté concernant le salut des hommes, à savoir de leur donner part au bien divin qui dépasse toute pénétration humaine de l'esprit. Donc on voit bien dans ce texte-là, dans ces quelques phrases, qu'il y a la volonté de se communiquer, c'est d'ailleurs dit deux fois, par des décrets éternels, c'est-à-dire par une volonté qui ne passera pas, qui ne cessera pas, et qui concerne le salut des hommes, le salut de tous. Leur donner part au bien divin. Donc on voit bien que ça dépasse toute la force humaine de la créature, c'est-à-dire c'est pas avec ses propres forces qu'il pourra entrer en communication avec Dieu, mais c'est parce que Dieu veut entrer en communication avec lui et que cette communication, elle s'inscrit aussi dans ce terme-là d'économie. Et c'est notre terme juste après, le terme d'économie. Alors, l'économie, je vous disais tout à l'heure qu'il c'est un terme qu'il faut comprendre comme un principe. C'est le principe par lequel Dieu se fait connaître et le principe correspond aux moyens que Dieu se donne pour se faire connaître, pour se révéler. Et là, je ne reviens pas, vous avez vu les étapes de ces moyens-là. Mais ça a une conséquence sur le monde, parce que lorsque Dieu se fait connaître, eh bien, il va instaurer dans le monde une cause transcendante. Vous voyez, vous pouvez noter ça, une cause transcendante. C'est-à-dire que le monde des créatures, de la nature, on va dire, c'est un monde qui est horizontal, où le quotidien est un quotidien qui se vit de manière horizontale. Eh bien, la révélation de Dieu dans ce monde-là va insérer, va instaurer quelque chose, une dimension qui va être une autre dimension. Donc, par cause transcendante, il faut entendre une dimension verticale. Lorsque Dieu se fait connaître à l'homme, l'homme ne peut plus être le même qu'avant. Donc il y a une poussée vers le haut, une poussée horizontale, on pourrait dire, une dimension spirituelle, et celle ou celui qui rencontre Dieu, eh bien, fait l'expérience d'une conversion qui passe par la dimension spirituelle. Eh bien, c'est ce que produit cette cause transcendante dans le monde. Ça veut dire aussi que Dieu va prendre part au monde. Il n'est pas extérieur au monde. Il n'y a pas lui et la création. Il n'abandonne pas la création, il n'abandonne pas ses créatures. Et il va choisir les moyens, encore une fois. Donc on a parlé des premières manifestations, et puis ensuite... Eh bien, viendra un autre moment particulier qui va être celui de l'incarnation du Verbe. Ça aussi, l'incarnation, elle aussi fait partie de l'économie, du mouvement économique. Et donc l'incarnation du Fils et les manifestations dans l'Ancien Testament et l'incarnation du Fils dans le Nouveau Testament, eh bien, sont à considérer comme une économie. Donc là, vous avez les trois termes principaux auxquels on a rajouté quelques-uns, comme ça en périphérie, médiation, élection, qui nous permettent d'identifier et d'aborder que tout est manifesté au commencement. Et que la volonté de Dieu de se faire connaître, c'est une volonté dès le commencement. Donc ça, c'est notre point 2. Au commencement de la manifestation, il y a donc la création. Et donc l'initiative de Dieu pour le monde et dans le monde, ben, ça commence par la création. La création, c'est quand même l'œuvre de Dieu, et l'homme est la cause de Dieu. C'est l'homme est la cause de Dieu. C'est en raison même de la création de l'homme que la nature est créée. Dans Genèse, bon, on parle d'Adam et Ève. C'est un récit mythique, on doit pouvoir comprendre que les premiers bénéficiaires de la création, c'est l'homme et la femme. Et ensuite vient la création de la nature. Mais la nature, elle va permettre à l'homme créé eh bien, de pouvoir accéder à Dieu par une révélation que l'on dit naturelle, c'est-à-dire par la création elle-même. Qui ne s'est pas extasié devant un paysage magnifique et puis rester en extase devant ce paysage et puis d'un seul coup, des fois c'est très fugace, mais la sensation d'une origine qui n'est pas l'homme de toute façon et qui est donc transcendante et de voir dans la nature une dimension spirituelle qui touche une dimension autre que celle du quotidien. Donc la révélation naturelle par la nature, la révélation par la création, permet à l'homme d'accéder à une dimension qui n'est pas sa dimension essentiellement horizontale. Donc effectivement, Dieu n'est pas en dehors de la création. Et ça a une conséquence aussi pour l'homme, parce que l'homme doit pouvoir comprendre du coup qu'il n'est pas enfermé dans sa dimension horizontale. Qu'il a la possibilité eh bien, d'accéder à une dimension qui est autre. Il est invité, nous dit la Constitution, il est invité à s'élever, à faire l'expérience de Dieu. Ce terme-là aussi d'expérience est important. Connaître Dieu, c'est l'expérience à la fois la plus fondamentale et peut-être même la plus redoutable, d'une certaine façon, de connaître Dieu. Mais on voit bien que la création, c'est par elle et dans la création que l'on peut parler de révélation naturelle. Alors là, je regarde mon texte, mais il y a des choses que je vous ai dites déjà. Alors peut-être le proverbe, vous l'avez peut-être sur les textes, je ne sais pas si je l'ai mis. C'est dans le livre des Proverbes, le 8, verset 23. On peut dire « dès l'éternité, je fus établi, dès le principe, avant l'origine de la terre. » Donc on voit bien là l'origine de la volonté de créer, et que cette création se produit comme une manifestation de Dieu. Mais alors du coup, dès que l'on dit manifestation, on doit entendre aussi puissance, souveraineté, puissance sur les éléments qu'il a créés et souveraineté sur les éléments qu'il a créés. Ça veut dire que dans la nature et dans la puissance qui peut se manifester dans la nature, l'homme qui est témoin de la manifestation dans la nature et qui associe cette manifestation à une dimension divine, eh bien, va avoir une représentation de Dieu qui va être une représentation de puissance. Si Dieu a créé la nature et que la nature peut montrer sa puissance dans le vent, dans l'orage, dans le tremblement de terre, alors il a une représentation d'un Dieu puissant et d'un Dieu souverain. Alors on arrive à notre deuxième point, mais pour introduire notre deuxième point qui est la révélation surnaturelle par une parole adressée, eh bien restons encore un petit peu sur la révélation naturelle, parce que du coup on voit bien que la révélation naturelle, elle va agir comme une préparation à la révélation surnaturelle. Celui qui n'a jamais rencontré Dieu mais qui est face à la nature, enfin pensons aux Grecs, rien qu'il y a le dieu du vent, le dieu de la mer, etc. Eh bien, cette dimension naturelle de la révélation prépare l'homme à une révélation surnaturelle. Et cette révélation surnaturelle, ben avec Abraham et Moïse, on en a déjà parlé, en posant un petit peu les jalons, nous l'avons vu. Mais après Abraham et Moïse, eh bien, nous avons les prophètes. Eux aussi vont faire l'expérience de la parole de Dieu qui se manifeste à eux. Parce que Dieu va surgir dans le quotidien de leur vie. Et là aussi, Dieu va choisir, donc l'élection encore une fois, des hommes particuliers qui seront choisis du milieu du groupe. Et donc l'histoire personnelle de ces hommes va devenir l'histoire de tout un peuple. Souvent les prophètes s'adressent au roi pour lui rappeler la justice. Eh bien, ces hommes-là, depuis Abraham jusqu'aux prophètes, eh bien, vont construire l'histoire d'Israël. Et l'histoire d'Israël va témoigner que Dieu s'est révélé à eux. Ce peuple-là, il ne faut pas que l'on oublie que c'est le peuple élu. Dieu ne s'est pas révélé à un autre peuple que le peuple hébreu, que le peuple d'Israël. Donc dans la parole de l'Ancien Testament, eh bien, il y a une parole qui a été adressée à des hommes choisis, des messagers, des prophètes, qui ont accueilli la parole de Dieu. Et Dieu va leur faire connaître son être, sa volonté et son plan. Voilà, il y a un plan, nous arrivons au plan. Et nous parlons alors de révélation directe. La révélation directe, on le voit bien, enfin, on connaît ça. Samuel, hein, Samuel, Samuel. Et Samuel répond, me voici. Ça, c'est une révélation directe. Samuel est appelé par son prénom. Si on extrapole dans le Nouveau Testament, quand Marie-Madeleine est au matin de Pâques et devant le tombeau vide et elle est désespérée, et elle voit le jardinier, elle reconnaît Jésus, parce que Jésus l'appelle Marie. Et à ce moment-là, elle reconnaît Jésus, elle le reconnaît parce qu'elle est reconnue par Jésus aussi. Donc vous voyez, il y a vraiment la dimension d'expérience et de reconnaissance, elle est importante dans la révélation directe. Et la révélation, elle a un caractère soudain. C'est brutal, hein, souvent. Puis ça a été brutal pour saint Paul, hein, particulièrement pour lui. Je regarde l'heure en même temps. Voilà, vous me dites. Alors, le caractère soudain, c'est le point d'après. Donc, si vous voulez, on peut faire une pause. Parce que je vois qu'il est moins sain. Vous me dites. Voilà. La révélation.
Vous êtes passé de la révélation naturelle à la caractère soudain.
Ah, le caractère soudain, c'est maintenant, en fait.
Le surnaturel, j'ai pas compris.
La révélation surnaturelle, c'est les théophanies. C'est-à-dire, quand Dieu s'adresse à l'homme dans un tremblement de terre, dans un buisson ardent, il y a une manifestation qui est une manifestation surnaturelle. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement dans la nature telle qu'elle est qui ferait penser à l'homme, « Oh, ben là, qu'est-ce que c'est beau, il doit bien y avoir quelqu'un qui a créé la nature » ou voilà, l'idée d'un créateur, d'un absolu créateur. Alors que surnaturel, c'est déjà la démarche de Dieu de se faire connaître à travers les manifestations de la nature. Un tremblement de terre, un buisson ardent qui brûle mais qui ne se consume pas. Voilà. Et ensuite, les manifestations directes. Samuel, Samuel, me voici. Donc là, c'est direct, il s'adresse à lui directement. Oui ?
Excusez-moi. Je me posais la question suivante. Comment peut-on affirmer que la création est une révélation ?
Ah, mais ce n'est pas d'affirmer que la création est une révélation, mais la création permet, c'est comme si la création était la médiation, c'est par la création que nous accédons à Dieu, puisque Dieu est à l'origine de la création. Mais on ne peut pas dire que la création, c'est la révélation. C'est faire un raccourci, si on dit ça. Mais ce n'est peut-être pas forcément ce que vous vouliez dire.
Non, ce n'est pas ce que je voulais dire.
Non, mais allez-y, allez-y, parce que c'est en parlant qu'on pense en parlant. Donc...
C'est un sujet qui est difficile, c'est-à-dire qu'on part du postulat que si je lis une révélation naturelle par la création donc est un moyen de la révélation.
Eh bien, c'est ça. Ben, vous l'avez dit. C'est un moyen, mais ce n'est pas la révélation elle-même.
Ah, donc là, il y a quelque chose d'ailleurs qui me fait sauter sur le terme d'économie.
Voilà, c'est ça.
Puisque vous dites à un moment donné que l'économie de la révélation est un principe qui correspond à des moyens.
C'est ça.
Il faudrait que vous précisiez
voilà.
Un petit peu.
Voilà. Alors, on va dire que l'économie, on va dire, en théologie, on va dire que c'est un principe ou un concept. Mais bon, ça, c'est des mots. Après, on les garde pour. Mais si on veut simplifier les choses, c'est de dire l'économie, on peut traduire ça, les moyens que Dieu se donne pour se faire connaître. En disant ça, on est juste. On n'est pas après, on peut dire, on va travailler le terme d'économie en conceptualisant l'économie. En disant, ben, c'est un principe que l'on peut conceptualiser parce qu'on veut travailler plus précisément le terme d'économie. Mais ce qu'il ne faut pas confondre, le raccourci dont je vous parlais, c'est la création, ce n'est pas la révélation. C'est le moyen par lequel Dieu peut se faire connaître.
Mais qu'est-ce que la révélation dans ce cas ?
Ben, la révélation, ça va être l'événement total et unique de Dieu ayant le désir et la volonté de se faire connaître. Il va se révéler en parole et en action dans l'histoire d'Israël, en libérant le peuple, en agissant toujours par fidélité contre l'infidélité du peuple. Et à un moment donné, il va décider de se faire chair, enfin le Verbe s'est fait chair et l'incarnation du Fils. C'est un moyen, c'est une économie. Vous voyez ? Mais ce n'est pas la révélation elle-même, ce n'est pas l'incarnation. Karl Barth, qui est un théologien protestant allemand, qui est mort en 87 ou 8, je ne sais plus, peut-être 9, enfin dans ces années-là, il dit l'incarnation, l'œuvre d'incarnation, elle n'est pas d'abord de l'ordre de la révélation, elle est de l'ordre de la rédemption. C'est-à-dire, l'incarnation fait œuvre de rédemption, c'est-à-dire que le projet de Dieu, c'est d'abord de sauver les hommes, c'est pas juste de se faire connaître ou de se révéler. Donc il y a vraiment une œuvre de rédemption, de salut. C'est pour ça que le raccourci en disant ben, la création, c'est la révélation, ce serait... Non. La révélation, c'est aussi que Dieu veut sauver les hommes.
Ah, mais là, c'est pleinement. Aussi, pleinement. Vous avez...
On peut poser la question. Oh. Je peux parler fort.
Ben, je vais vous passer le micro.
Ma question à moi, elle va être bête. Donc je vous prie de m'excuser par avance.
Ça, vous êtes pardonné par avance.
C'est sans doute un manque de culture religieuse chrétienne, mais j'ai senti que vous avez dit quelque chose de très important quand vous avez dit qu'il n'y a pas de rupture entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et moi, j'ai besoin que, si c'est possible, vous réexpliquiez à quel endroit il n'y a pas de rupture.
Ah ben... oui, non, mais c'est tout à fait juste, parce qu'on a là deux moments de l'histoire de la révélation, et si on dit deux moments, alors ça veut dire qu'il y a une jointure, qu'il y a une jonction. Alors, ça me fait penser à Paul Pochon. Paul Pochon, quand il a écrit « Parler d'écriture sainte », il y a déjà de nombreuses années, dans les années 80, c'était, lui dit, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il n'y a que la reliure qui sépare. C'est tout, ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation entre l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que l'histoire, c'est l'histoire unique de la révélation. Alors votre question, elle peut rejoindre la vôtre, madame, c'est-à-dire qu'il y a, comme il y a un événement unique, dans cet événement unique, il y a la manière dont Dieu a décidé à un moment donné de se faire connaître dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament par l'incarnation. Souvenez-vous, on a lu, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, dans l'évangile du jour ou la lecture, c'était les vignerons homicides. Et bien voilà, le maître de la vigne envoie ses ouvriers pour récupérer la récolte, on tue le premier, on tue le second, on malmène, et puis on dit bah, « je veux envoyer mon fils, au moins lui ne le tueront pas ». Ça veut dire que le maître de la vigne, bon, bien sûr c'est une parabole, mais le maître de la vigne a mis en œuvre un plan, voilà, les moyens pour pouvoir récupérer les fruits de sa vigne. Mais pour en revenir à votre question, le danger, c'est toujours de séparer, en fait. On ne sépare pas. C'est toujours garder l'unité. En théologie, si on a une clé, c'est l'unité. Il faut toujours garder l'unité de l'événement. On ne sépare jamais. Et donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce sont deux moments de la révélation. Le peuple élu, et ensuite, on peut voir, avec l'incarnation du Fils, et puis l'ouverture au monde, quoi, par Paul. Matthieu, il a eu du mal à... Enfin, Pierre a eu du mal à comprendre cette ouverture aux païens. Paul a fondé les églises, justement, pour l'ouverture aux païens. Mais c'était pas évident. Madame, vous allez voir le droit.
Oui, j'ai plusieurs questions, mais on va y aller doucement. Vous avez parlé de « pour tous », et puis après « peuple élu ». Donc, c'est pas pour remettre en question, vous remettre en question, mais c'est très complexe, cette affaire-là.
Oui,
c'est peut-être pas le moment d'en parler aujourd'hui.
Non, mais bien sûr, voilà. Mais parce que...
Oui, c'est tout.
Vous avez raison. On ne doit pas oublier, nous sommes chrétiennes et chrétiens, mais on ne doit pas oublier que Dieu s'est révélé à un peuple particulier, qui est le peuple d'Israël, qui est le peuple hébreu.
On ne doit pas oublier ça. Et si on l'oublie, Paul nous le rappelle, c'est Romains 11. Vous avez été greffés sur l'olivier franc. J'ai le pouvoir de vous greffer, j'ai le pouvoir de vous retrancher. On ne doit pas oublier qu'on a été greffé à l'olivier sauvage. Il y a ça aussi. Donc, le risque, ce serait de considérer, et le pour tous, bien sûr qu'il est pour tous. C'est pas parce qu'il s'est révélé dans l'Ancien Testament à un peuple particulier que c'est pas pour tous.
C'est une des preuves d'évolution de lecture de l'Ancien au Nouveau Testament.
Oui, mais pas que, parce que si vous voulez, quand on lit l'Ancien Testament, on a dans l'Ancien Testament des témoignages. L'Ancien Testament, avec le prophète Élie, par exemple, on voit qu'il y a des résurrections. Le fils de la veuve de Sarepta, elle faisait pas partie du peuple hébreu. Et pourtant, il y a une résurrection du fils de la femme païenne. Donc Dieu ne se révèle pas qu'aux hébreux. Vous voyez ? Donc ça veut dire qu'on doit toujours tenir. Parce que le risque, c'est de dire, ben, y a un livre qui est caduque parce qu'il a été remplacé par le nouveau. En fait, non, quand vous ouvrez une Bible, vous avez sur des notes qui nous renvoient. Jésus, il n'est pas mort chrétien. Il est juif. Vous voyez ? Et des fois, on a... On pourrait oublier des choses importantes comme ça. Nous croyons en Jésus juif.
Alors, pour moi, le grand problème, là, vous avez dit, nous sommes ici tous chrétiens. Enfin, peut-être que non, mais... Hein, mais
vous voilà, pouvez être protestant, vous pouvez être juif. Hein.
Mais voilà, mais si on flirte avec l'athéisme, oui. Le problème, dès le début, quand Dieu veut se manifester. Oui. Ça, pour quelqu'un qui est agnostique, qui ne croit en aucun Dieu, comment Dieu veut se manifester, c'est incompréhensible. Pour moi, c'est un peu agnostique. Non mais,
le christianisme
me plaît beaucoup, je porte la croix, tout ça. Bon.
Mais c'est pas parce qu'on ne croit pas en Dieu que ça remet en cause le vouloir de Dieu de se manifester. Ben c'est pas parce que vous... Si je ne crois pas en Dieu, je ne suis pas la norme de la volonté de Dieu. Dieu ne se cale pas sur ma volonté à moi de ne pas croire.
Ah, c'est joli, ça.
Vous voyez ?
Ah oui. Oui, on est dans le forme de diabolisme.
Ben, c'est-à-dire que, votre collègue vient de le dire, c'est-à-dire qu'en fait, on est libre de croire et de ne pas croire, et que Dieu croit en nous, même si nous ne croyons pas en lui. Après c'est notre liberté. C'est notre liberté. Mais pas...
Nous sommes d'accord, parce que vous venez de dire, nous sommes d'accord que nous pouvons affirmer que Dieu veut croire en nous que parce que certains élus nous ont transmis par leur témoignage cette révélation qu'ils ont reçue.
Alors, dans ce que vous dites, c'est le. J'enlèverai le. Que parce que. Parce qu'il n'y a pas de que parce que en Dieu. Parce que si on met un que parce que, on oublie la dimension essentielle en Dieu qui est l'amour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre motivation en Dieu que l'amour qu'il a pour sa création, ses créatures.
Ce que vous dites, il faut avoir compris qu'il s'agit d'amour. Hein.
Voilà.
Qui nous force
à définir aussi ce que ça veut dire. Hein.
Voilà.
Parce que amour, nous.
Alors, amour dans l'Ancien Testament, il y a de la colère dans l'Ancien Testament. Dieu se met en colère. Mais l'amour, on le voit à quoi ? La fidélité de Dieu. Le peuple peut récriminer après Dieu. Le peuple peut construire un veau d'or pendant que Moïse reçoit les tables de la loi, le décalogue, il n'empêche que Dieu continue de sauver son peuple et de garder sa fidélité.
Il se fâche souvent contre son peuple.
Il est puni.
Oui, il se fâche. Et même il dit que ce peuple a la nuque raide. Oui. Mais quand il envoie Jonas à
à Ninive et que Jonas prend un bateau pour Tarsis et puis qu'il part ailleurs, bah, en fait, Dieu retrouve Jonas quand même. Et voilà, et Jonas, parce que Jonas avait une représentation de Dieu, de ce Dieu-là, de ce Dieu, d'un Dieu qui se vengeait, qui se mettait en colère. Et pourquoi Jonas n'est pas content ? Parce que Jonas pensait vraiment que Dieu allait détruire Ninive. Puis en fait, Ninive n'est pas détruite parce que le roi, tout de suite, il décrète le deuil national, on se roule dans la cendre, on met des... Voilà. Et que du coup, Ninive demande pardon. Alors, Dieu revient sur sa promesse de détruire Ninive, et du coup, ça ne plaît pas à Jonas. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, moi, j'aime bien ce passage-là dans la Bible, quand Jonas est sous le ricin, et puis pour se mettre à l'abri de Dieu, et puis le ricin meurt, et Jonas est en colère, et Dieu lui dit, mais as-tu raison d'être en colère, Jonas ? Ben non, ben c'est ça. On n'a pas de raison d'être en colère de Dieu, en raison même de son amour. De son amour, enfin.
Il va déporter le peuple et tout ça.
Mais c'est pas Dieu qui déporte le peuple.
C'est
Nabucodonosor. Mais en fait, quand on lit la Bible, il faut lire l'histoire, un livre d'histoire en même temps. Parce que si vous n'ouvrez pas un livre d'histoire en même temps, on est quand même dans une période. On n'est pas que dans la période de la révélation ou du mystère ou de la mystique. On est dans une histoire qui s'inscrit dans une histoire réelle. Et quand Nabucodonosor détruit le temple, déporte le peuple à Babylone, on est dans l'histoire qui s'est vraiment passée.
Mais Dieu aurait pu empêcher tout ça.
Ah. Mais ça, c'est votre représentation de Dieu. Votre représentation de Dieu, c'est une représentation d'un Dieu tout-puissant qui peut tout. Mais si c'est ça, ça veut dire que vous n'êtes pas libre, que votre liberté n'existe pas, que vous êtes soumis à Dieu. Et Dieu ne veut pas soumettre qui que ce soit. Mais...
Les critiques sont agitées là.
Oui,
alors... Il y a vraiment des choses qui peuvent être... On a 8 cours, hein,
pour ça. Oui, Dieu se manifeste de manière radicale et de manière soudaine. Là, je suis...
2, 3.
Voilà, je suis là. Le caractère soudain de la révélation. Donc, il y a une radicalité dans cette soudaineté. Et pour l'homme qui est témoin de cette soudaineté, de cette radicalité de Dieu qui se manifeste à lui, eh bien pour lui, c'est un événement. On parlait tout à l'heure de dimension personnelle ou communautaire. C'est d'abord un événement dans sa vie, un événement pour lui. Et souvent un événement qu'il ne comprend pas tout de suite. D'où la nécessité de la relecture. Donc c'est inédit. Et cette expérience-là, elle est totalement nouvelle. Et on imagine la nouveauté et la radicalité pour Abraham, par exemple. Parce que cette nouveauté va instaurer une relation qui était encore inconnue jusque-là. C'est une relation nouvelle, parce qu'elle est transcendante. On parlait d'horizontalité tout à l'heure, ou de verticalité avec la cause transcendante. Eh bien, voilà. Une manière pour l'homme, eh bien, de quitter sa dimension quotidienne, radicale, on pourrait dire catégoriale, où il va se retrouver inséré dans une histoire, parce que c'est une histoire qui ne le concernera pas que lui. Donc en s'auto-communiquant, et donc là c'est sur la dimension d'expérience, en s'auto-communiquant, eh bien, Dieu offre à l'homme cette possibilité de le connaître de l'intérieur, de connaître qui est Dieu. Christophe Théobald, qui est un théologien jésuite du Centre Sèvres, pas très loin, dit que Dieu n'a qu'une seule chose à nous dire, un seul mystère à révéler aux croyants, c'est lui-même et lui-même comme destinée. Ben voilà, Dieu nous donne une destinée, nous offre une destinée.
Et on pourrait même dire que la destinée, elle entre dans le projet de Dieu pour l'homme. Et cette initiative, on en parlait tout à l'heure, elle s'origine dans l'amour de Dieu. Elle n'a pas d'autre origine que celle-ci. Et pour l'homme, et pour tous les hommes, et pour l'humanité, c'est un événement historique. Mais cet événement-là, il ne peut être compris que postérieurement. Il n'y a jamais de compréhension immédiate. On ne comprend jamais les choses de manière immédiate. C'est toujours une connaissance a posteriori, et c'est ce qu'ont fait les rédacteurs des Écritures. Ils ont écrit, après avoir relu l'expérience qu'ils ont faite de Dieu, de la déportation, du retour à Jérusalem. Alors là, il y a un petit texte de Karl Rahner, je vais vous le lire. Enfin, vous devez l'avoir, c'est le texte 4. À ce propos-là, sur le statut historique de l'événement. Il dit « Ce que nous nommons connaissance ou expérience transcendantale de Dieu » est certes une connaissance a posteriori, dans la mesure où l'expérience transcendantale que fait l'homme n'advient toujours que dans la rencontre du monde et avant tout du monde relationnel. Notre connaissance ou expérience transcendantale doit donc à ce compte être nommée a posteriori, pour autant que toute expérience transcendantale est médiatisée dès l'abord par une rencontre avec les réalités concrètes de notre monde, de notre monde ambiant, moi je disais quotidien, lui dit ambiant et relationnel. Donc voilà, on ne sort jamais de la dimension de médiation. Il faut toujours un temps entre l'événement et sa relecture. Il faut toujours un temps. Donc Dieu ne se montre pas face à face, directement. Il est toujours médiatisé par des messagers. Par contre, avec Jésus, avec le Christ est bien le médiateur du Père, et Jésus peut dire « Qui me voit a vu le Père ». Donc il y a en plus une relation directe, mais qui intéresse la totalité du groupe. Regarde un petit peu pour avancer un peu plus vite. Alors tout à l'heure on parlait d'histoire. Là j'ai noté là et je dois ça à Christophe Théobald. Il a envisagé l'événement. Il a donné à l'événement de la révélation la valeur d'un fait historique significatif. Vous voyez, on se déplace, on fait un pas de côté sur la dimension croyante, de dire c'est un fait historique significatif, parce que c'est un fait historique qui s'est produit et qui a été témoigné. C'est pour ça qu'au départ, on parlait de dimension objective de la révélation. J'essaye d'aller un petit peu vite, pour j'avais prévu de vous passer un tableau de Rembrandt, mais on va y arriver. Parce que dans leur relecture, on peut dire, pour ceux qui ont cru, qui ont écrit, ou ceux qui ont écouté, ceux qui ont vécu l'expérience, eh bien, ils sont convaincus du caractère divin de la révélation. Pour eux, c'est objectif. Dès l'instant où ils en ont vécu l'expérience dans leur vie propre, et dans la vie du groupe, c'est quelque chose qui prend, qui est factuel dans leur vie, dans l'histoire, dans la vie du groupe. Donc ça devient, c'est dans ce sens-là que Christophe Théobald parle de faits historiques significatifs. Ça a changé la vie et ça a changé la vie du peuple. Ce changement, on voit bien qu'il est... Il construit le peuple. Il construit le peuple, il va construire le culte, il va organiser la vie cultuelle dans la société où il va s'installer, et ça va être absolument déterminant, déterminant pour lui, déterminant vis-à-vis de la terre qu'il occupe, et vis-à-vis des autres peuples qui vivent autour de lui. Donc le caractère historique, il est toujours à convoquer lorsque l'on ouvre les Écritures. Alors, je pourrais peut-être, parce que bon, je suis allée un petit peu vite là-dessus, mais bon, vos questions ont permis quand même, il y avait des choses que j'avais déjà dites, mais je voudrais juste avancer un petit peu sur la dimension objective, on vient de le faire, et je disais que pour Abraham, comme pour le peuple, il y a quelque chose qui a changé radicalement pour lui. On parlait de foi tout à l'heure dans vos questions. Eh bien, on peut voir la manière dont la foi est devenue quelque chose de particulier pour Abraham. Alors, ce que je vous propose, là, sur les minutes qui nous restent, c'est de lire le texte de Genèse, et puis ensuite de vous montrer un tableau de Rembrandt qui représente la ligature d'Isaac, justement le sacrifice d'Isaac, pour voir un petit peu, non pas les correspondances, mais il y a une interprétation dans l'œuvre d'art qui permet de voir et de lire le texte à travers les gestes et à travers les personnages qui sont peints. Donc pour vous rappeler ce texte de Genèse 1:17, 22:17. Or, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham, il répondit, me voici. » Il reprit « Prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes, pars pour le pays de Moria et là, tu l'offriras en holocauste à celle des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, prit avec lui deux de ses jeunes gens et son fils Isaac. Il fendit les bûches pour l'holocauste. Il partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, il leva les yeux et vit de loin ce lieu. Abraham dit aux jeunes gens, « Demeurez ici, vous, avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons là-bas pour nous prosterner. Puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit les bûches pour l'holocauste et en chargea son fils Isaac. Il prit en main la pierre à feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac parla à son père Abraham. « Mon père, » dit-il. Et Abraham répondit, « Me voici, mon fils. » Il reprit, « Voici le feu et les bûches. Où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura voir l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Tous deux continuèrent à aller ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un autel et disposa les bûches. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel au-dessus des bûches. Abraham tendit la main pour prendre le couteau et immoler son fils. Alors l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ». Il reprit « N'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. » Abraham leva les yeux, il regarda, et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un fourré. Il alla le prendre pour l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu « Le Seigneur voit ». Aussi dit-on aujourd'hui, c'est sur la montagne que le Seigneur est vu. L'ange du Seigneur appela Abraham du ciel une seconde fois et dit « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela et n'as pas épargné ton fils unique, je m'engage à te bénir et à faire proliférer ta descendance » autant que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. » Voilà. Vous voyez, ça c'est un texte que l'on connaît, que l'on connaît très bien. Et pourtant, on voit bien, déjà trois fois, l'ange du Seigneur appelle Abraham, il répond « Me voici ». Donc on est là dans une révélation directe. Dieu s'adresse à Abraham et pas à un autre. Après, pour reprendre un petit peu rapidement, Dieu promet à Abraham, et en promettant, eh bien, il va confirmer que Dieu a foi en Abraham. Ça, c'est important, on parle souvent de la foi d'Abraham, mais Abraham a aussi foi en Dieu. Que dit-il Abraham quand il répond à son fils ? Il lui dit « Dieu saura voir l'agneau pour l'Holocauste, mon fils ». Abraham ne doute pas, il fait confiance en Dieu. Ensuite, il y a autre chose qui doit nous interpeller. C'est la phrase de l'ange du Seigneur, à la fin, au verset 16. Il dit... alors, c'est pas tout à fait... Non, c'est un peu plus haut, en fait. C'est au verset 12. « N'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant je sais. » Je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné ton Fils unique pour moi. C'est ce « je sais » qui doit nous interroger. Parce qu'on pourrait se dire, ah bon, y a-t-il un moment où Dieu ne savait pas ? Si on remet à Dieu toute la puissance dont vous parliez, madame. Y a-t-il un moment où Dieu ne savait pas ? Eh bien, ce « je sais », il nous interroge parce qu'en fait, c'est le moment où Abraham lui-même ne savait pas jusqu'où allait sa foi en Dieu. C'est plutôt, me semble-t-il, dans ce sens-là qu'on doit comprendre les choses. Maintenant, je sais que tu peux avoir foi en Dieu, parce que Dieu a la main, enfin l'ange du Seigneur a arrêté la main du sacrifice en quelque sorte. Donc Dieu lui promet, lui a permis de vérifier sa foi. Dieu n'aurait pas permis qu'Abraham aille jusqu'au sacrifice du fils, mais il a fait confiance jusqu'au bout, ce qui fait dire à l'ange, « Maintenant, je sais. » Alors, on va regarder le temps qui nous reste, le tableau de Rembrandt. Alors, attendez, qu'est-ce que je fais ? Où est-ce qu'il est ? Attends. Ah non, ça j'éteins. Vous l'avez ? Voilà. Vous l'avez. Alors, ce tableau-là, je vais prendre mon papier quand même. Alors, ce tableau-là, donc, ça a été réalisé en 1635. Et il est intéressant parce que c'est la manière dont Rembrandt va interpréter ce moment absolument terrifiant quand même, hein. Ce moment de sacrifice. Je ne sais pas ce que vous en pensez, quel effet ça fait. Il y en a plusieurs de représentations de Rembrandt, mais celle-ci, elle est particulière. Elle est particulière. Alors, d'abord, on peut voir qu'il y a trois personnages. Il y a l'ange, Abraham et il y a Isaac. Alors, en regardant bien, moi j'avais noté qu'il y a deux personnages actifs, vous l'aurez deviné, c'est l'ange et Abraham, et un passif qui est Isaac. Après, ce qui était intéressant, c'était les diagonales, en fait, à partir de l'aile de l'ange jusqu'au visage d'Isaac. Parce que du coup, on a une alternance tête-main, donc tête de l'ange, main de l'ange, tête d'Abraham, main d'Abraham sur la tête d'Isaac. Et puis on a aussi quelque chose d'intéressant sur la constante, c'est-à-dire on a les deux mains, c'est-à-dire la main de l'ange qui se pose sur la main d'Abraham et le bras levé de l'ange. Donc en fait on a une constante sur des mains qui sont très actives en fait. La main de l'ange qui se lève, comme pour dire d'arrêter le mouvement, qui est conjoint avec le fait que la main de l'ange prend fermement la main d'Abraham. Et si on regarde bien la main d'Abraham, elle est ouverte de la même façon qu'elle est ouverte sur le visage d'Abraham. Et on sent une force aussi. On ne se dit pas, oh ben, la main est juste posée. On sent bien, avec le visage d'Abraham, d'Isaac en arrière, que Abraham ne fait pas semblant de tenir le visage de son fils. Il le tient fermement pour qu'il ne bouge pas. Donc ça veut dire qu'il y en a deux, enfin en tout cas un qui parle, c'est l'ange du Seigneur, mais Isaac, lui, il est la parole, c'est pas, il n'est pas concerné par la parole, c'est-à-dire il est vraiment totalement passif. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? On peut remarquer le regard croisé, parce que moi je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais je vois qu'Abraham regarde l'ange, et quand on voit le tableau un peu plus grand, l'ange regarde Isaac. Donc il y a vraiment un regard croisé. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, ben, Abraham, et il est dans l'inattendu, là, hein, c'est tout à fait, là on parlait d'inattendu tout à l'heure, mais on voit bien que pour l'ange, le personnage le plus important, c'est Isaac, c'est pas Abraham. Parce qu'il a déjà la main sur le poignet d'Abraham. Donc c'est pas lui qui est concerné tout de suite. D'ailleurs, le geste est tellement brutal qu'Abraham lâche le couteau qui est en train de tomber. Donc l'ange regarde bien Isaac. Et donc on voit bien la force du saisissement.
Donc, il est où ce tableau ?
Alors ce tableau, ben, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Peut-être qu'il est au Louvre. Je sais qu'il y a plusieurs versions de ce tableau. Rembrandt a son habitude ne peint pas une seule version, mais plusieurs. Alors peut-être au Louvre, mais je veux bien regarder où il est particulièrement. Oui, Isaac est privé du regard. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il est le premier concerné par l'épisode, là, ce qui est en train de se produire, ça le concerne quand même bien en premier, et pourtant, ça ne le concerne qu'indirectement, puisque Dieu s'est adressé à Abraham, et que c'est lui qui est concerné, parce que c'est la foi d'Abraham, et c'est pas la foi d'Isaac, et que l'ange du Seigneur est là, pour vérifier, en quelque sorte, il arrête la main au dernier moment. Donc on voit bien qu'Abraham, en fait, il est totalement passif, totalement livré.
Isaac est dans la lumière.
Et Isaac, c'est tout à fait juste. Il est totalement éclairé, totalement dans la lumière. Et vous voyez, on parlait de voilement, dévoilement tout à l'heure. En fait, le visage d'Abraham est dans la lumière, mais pas tellement le visage de l'ange qui est quand même un petit peu dans l'ombre.
L'ange rétablit l'ordre aussi, il donne une identité à Isaac en le regardant.
Ben en fait, dans le tableau, l'ange regarde Isaac.
C'est ça.
L'ange regarde Isaac. Oui, c'est ça que vous voulez dire. Il lui donne une existence.
Voilà. Une existence. Parce qu'il n'avait pas vu le père.
Oui. Qui lui sauve la vie aussi, on peut dire ça aussi. C'est-à-dire, il le rend pleinement à son existence, quand même. Voilà, mais c'est vrai, c'est tout à fait juste. Il le rend pleinement à son existence.
Oui, mais on peut se demander comment Dieu peut exiger, demander un geste aussi monstrueux.
Oui. Or, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve.
D'accord. Oui.
Alors, nous, comment on lit ça? Est-ce qu'on doit le lire de manière fondamentaliste? Voilà, il a vraiment demandé ça. Ou est-ce qu'on le lit? Cet homme, Abraham, a cru que de jusqu'au bout que Dieu est bon et que Dieu n'irait pas jusqu'au sacrifice.
C'est pas évident, hein.
Ça dépend comment vous lisez, comment vous interprétez. Mais on a le droit, vous avez tout à fait.
Dieu sera voir l'agneau.
Et bien oui, ben là, il a
fait. Abraham, jusqu'au bout, il pense bien que son fils sera l'agneau.
Ah non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que jusqu'au dernier moment, il ne voit pas l'agneau. Et donc, il part avec le fils. Moi, après, bon, je pense que Rosine pourra donner des interprétations, mais je pense que là, sans voir, il y a sûrement, enfin, il y a sûrement, on peut imaginer qu'il y a en Abraham une compréhension intérieure, de, non pas de la volonté de Dieu, parce que Dieu ne veut pas la mort de l'homme, sinon il n'aurait pas envoyé son fils sur la croix. Enfin, et puis encore, il ne l'a pas envoyé sur la croix. La condamnation sur la croix est du fait des hommes, et non pas de Dieu, et non pas du Père. Mais c'est vrai que l'ange arrêtant la main du Seigneur, l'ange du Seigneur arrêtant la main d'Abraham, Abraham lève les yeux et voit le bélier pris dans les forêts, le bélier de l'Holocauste. Rien ne nous dit que le bélier n'était pas déjà là avant qu'Abraham ait mis le fils sur... Rien, le texte ne nous le dit pas.
Le bélier, c'est mieux que l'homme, mais c'est pas tout.
Après, si on fait un petit pas de côté, il s'agit plus de la foi d'Abraham. Comment on comprend cette foi fondatrice de tout un peuple à venir, comment la foi fondatrice d'Abraham peut être représentée par ce geste ultime. Parce que c'est plutôt ça que l'on doit voir dans ce texte, plutôt que de le lire de manière brutale, radicale.
Au premier degré. Ouais, c'est bien le problème, c'est que comment décoder les textes.
Eh bien, vous êtes là. Vous êtes là. Voilà.
C'est l'homme qui est équipé des hommes.